Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui démarre à New York l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants du monde entier vont adopter 17 objectifs de développement durable, les ODD, dont celui de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Alors des progrès importants ont été réalisés au cours des 15 dernières années. L'extrême pauvreté et la mortalité infantile ont été réduites de plus de moitié. Cependant, plus d'1,2 milliard de personnes vivent encore aujourd'hui avec moins d'un euro par jour. L'adoption des objectifs de développement durable est une étape historique dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Mais on va d'abord se poser la question de savoir quelles sont les avancées en santé depuis 15 ans, quel bilan tirer des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, quelle est la place de la santé dans les prochains ODD. Mes invités, ils sont trois autour de cette table. Frédéric Roder, qui est présidente de One France, Patrick Bertrand, qui est directeur exécutif d'Action Santé Mondiale, et le docteur Frédéric Goyer, qui est conseiller du directeur des relations extérieures du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et bien sûr, si vous souhaitez participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on parlera également de la situation à l'hôpital Yelgado Ouédraogo, qui est l'hôpital de Ouagadougou au Burkina Faso. Et en fin d'émission, je vous propose une nouvelle chronique sport et santé avec le docteur Jean-Marc Sen, qui est médecin du sport. Frédéric Roder, Patrick Bertrand, docteur Frédéric Goyer et docteur Jean-Marc Sen. Bonjour, merci à tous les quatre d'être là. Je voudrais qu'on fasse d'abord un bilan de ces objectifs du millénaire pour le développement. Il y en avait plusieurs qui concernaient la santé. Il y avait des questions sur le sida, la tuberculose, le paludisme, la mortalité maternelle, la mortalité infantile. Si on commence par le sida, peut-être que je vais vous donner la parole, docteur Frédéric Goyer. On en est où? Quel était l'objectif et qu'est-ce qu'on a obtenu?
Alors l'objectif de cet objectif, le sixième sur les huit objectifs, qui concernait donc la lutte contre le sida, le paludisme et les autres infections. Et pour ce qui concerne strictement le VIH, c'était d'inverser la tendance de l'épidémie par rapport à la situation de 1990. Et les résultats sont absolument flagrants, on reviendra dessus après. D'abord parce qu'il y a une diminution de la rapidité de progression de l'épidémie.
Du nombre de contaminations.
Tout à fait clairement. Il y avait à peu près, je vous donne des ordres de grandeur, 3 millions de nouveaux cas par an au début des années 2000. Aujourd'hui, on est à 1,2, 1,3. La mortalité, pareil, a chuté de manière extrêmement forte dans cette période-là, essentiellement grâce à l'accès au traitement, à la prévention et au financement qui ont suivi.
Voilà. Combien de personnes sous traitement, d'ailleurs, aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, 15 millions.
Et
on était à 50 000 en 2000. Quand le Fonds mondial dont je fais partie a été créé, on était à 50 000 personnes et quasiment aucune en Afrique. Enfin, c'était anecdotique en Afrique.
Donc, sida, on a progressé, toujours dans le cadre du Fonds mondial de paludisme.
Alors, le paludisme, pareil, un succès extrêmement étonnant et qui d'ailleurs se retransmet, parce que c'est important, sur les autres objectifs, on y reviendra. Une chute probablement de 30 à 40% de la mortalité globale et du nombre de nouveaux cas probablement aussi similaires dû à la conjonction d'accès au traitement, de la prévention, un effort colossal de distribution de moustiquaires imprégnés par les insecticides qui est un des moyens de prévention les plus connus, avec des chutes, pour ça que ça relie avec les autres objectifs, dans certains pays où la mortalité des enfants était beaucoup liée au paludisme, on a des chutes de mortalité de 30 à 35%, enfin, voire plus, par exemple au Rwanda.
Donc on est d'accord, sida, paludisme, si je vous fais réagir, que ce soit Frédéric Roder ou Patrick Bertrand, vous êtes d'accord, là, on est sur quelque chose où on a bien avancé.
Ah oui, les objectifs du millénaire étaient un réel succès, parce que on peut vraiment voir qu'il y a eu une accélération à partir des années 2000. Le docteur vient de le dire, par exemple, au début d'année 2000, on avait quasiment personne en Afrique sous traitement antirétroviraux. Aujourd'hui, dans le monde, on est à 15 millions. Et ça, c'est aussi dû à l'objectif du millénaire et surtout aussi à la mobilisation qu'il y a eu suite à l'adoption de ces objectifs. Donc, par exemple, la création du Fonds mondial. Pour la mortalité infantile, il y a eu la création de l'Alliance Gavi qui s'occupe de la vaccination des enfants dans les pays en développement. Donc, les objectifs...
On va y revenir après. Sur mortalité infantile, j'en étais vraiment sida, palu. Patrick Bertrand, on est d'accord, c'est deux choses sur lesquelles on a bien avancé.
Tout à fait. Et en termes aussi de tuberculose, choses. On a eu aussi une situation meilleure, même si maintenant on a justement l'arrivée de tuberculose multirésistante qui pose énormément de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des effets énormes.
La tuberculose, vous le mettez aussi dans les succès, même si on dit, mon Dieu, il y a quand même une montée de la tuberculose multirésistante qui est inquiétante.
Tout à fait, parce que de toute façon, la tuberculose était une maladie complètement oubliée il y a une quinzaine d'années, et maintenant, grâce justement aux OMD, la tuberculose est remontée un peu dans les priorités de santé mondiale et a permis justement, ce qui a permis de mettre à disposition des financements justement pour la lutte contre la tuberculose. Mais on a d'autres sujets importants au niveau de la tuberculose qui sont justement les résistances.
Donc trois points sur lesquels on a avancé, on dira quand même, il y a encore des choses à faire très clairement sur le sida, on pourrait en venir à bout puisqu'on sait maintenant comment traiter les gens. Vous avez commencé à l'évoquer, je vais vous redonner la parole, Frédéric Roder, la mortalité infantile aussi réduite de moitié, c'est déjà pas mal, c'est pas encore tout à fait ce qu'il faut, mais c'est pas mal.
Ah bah c'est très très bien, oui. Et surtout en fait c'est on l'a réduit depuis 1990, mais notamment à partir de 2000, il y a vraiment une accélération des progrès, et aussi en Afrique subsaharienne, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait le succès des objectifs du millénaire, on le voit surtout en Asie, pas du tout aussi en Afrique subsaharienne, et la mortalité infantile est un très bon exemple pour ça. Et comme je disais, c'était un peu similaire que ce qui s'est passé autour du sida, du paludisme et de la tuberculose, que vraiment les OMD ont permis de créer une dynamique politique. Donc la création de l'alliance Gavi pour la vaccination des enfants, qui a permis aussi de mobiliser des financements publics et privés, de faire baisser le coût des vaccins et d'améliorer la distribution. Et voilà, et les résultats sont là. C'est quand même déjà impressionnant qu'on a pu autant baisser la mortalité infantile. Et maintenant, on vise en fait qu'aucun enfant de moins de 5 ans devra plus mourir de maladies évitables d'ici à 2030.
C'est ça. Alors, on a progressé sur la mortalité infantile, vous le dites, grâce à la vaccination. On l'a vu tout à l'heure, évidemment, grâce aussi au progrès dans le paludisme. Et quoi d'autre ? C'est vraiment les deux points importants qui ont permis de faire baisser cette mortalité infantile ?
C'est pour beaucoup. Alors, ce qu'il faut dire pour les vaccins, par exemple, c'est qu'on a aussi pu élargir, en fait, la palette des vaccins pour les enfants. Donc, mais c'est en fait surtout le vaccin pentavalent qui a permis une progression importante.
Pentavalent, dans lequel il y a quoi ?
Il y a notamment aussi le vaccin qui permet d'éviter la pneumonie et la diarrhée, qui sont parmi les maladies les plus mortelles en Afrique, ce qui peut sembler assez étonnant pour nous en Europe. Mais ce que ça montre très bien aussi, c'est que les solutions sont là. C'est très important aujourd'hui qu'on passe à des objectifs de développement durable qui sont encore plus ambitieux que les objectifs du millénaire, parce que les solutions sont là, parce qu'on a prouvé que les progrès sont possibles même dans les pays les plus pauvres. Et donc maintenant, on peut.
Tant qu'on n'oublie pas la santé, on verra ça d'ailleurs dans la deuxième partie, parce que quelle est la place de la santé dans les ODD? Patrick Bertrand voulait réagir.
Et je voulais juste rajouter aussi pour la santé infantile la question de la nutrition, qui est une question essentielle. Donc on commence à parler un peu plus maintenant, ça devient un enjeu politique, ça devient quelque chose qui arrive dans les négociations internationales, mais qui n'est pas suffisamment justement pris en compte.
Sujet très tabou d'ailleurs pour les pays en question. Nous, on l'a bien vu à chaque fois qu'on a fait des sujets sur la malnutrition, c'est un sujet tabou.
Exactement, puisque ça démontre justement une complète mauvaise prise en charge des enfants dans les pays, et également ça démontre également au niveau international une mauvaise priorité donnée à ce sujet.
Donc là, on vient de parler des avancées. Vous vouliez peut-être réagir.
Non, pas du tout. Je vais continuer sur, en particulier sur la mortalité maternelle. Peut-être juste un mot sur la nutrition. C'est vrai que la difficulté de la nutrition, c'est qu'on a toujours été entre deux mondes, entre le monde de la santé, des docteurs, et puis le monde des agriculteurs, d'une certaine manière, et qu'on s'est renvoyé la balle depuis des années et des années. Juste pour mémoire, dont la nutrition intervient on parlera dans les objectifs du développement durable, mais en dessous de l'objectif lutter contre la faim.
C'est ça. Ouais. Alors, et vous avez commencé à l'évoquer, je voulais qu'on parle maintenant de mortalité maternelle, parce que là, on vient de dire tout ce qui a avancé. Patrick Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que la mortalité maternelle, je trouve qu'on n'a pas du tout assez avancé par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés?
Ah non, ça fait partie justement des objectifs sur lesquels on espère que les ODD vont mettre la priorité, et c'est quelque chose justement qui est un peu oublié au niveau international, et c'est lié aussi à un mauvais investissement dans les systèmes de santé, mais c'est quelque chose qu'on va peut-être parler tout à l'heure, qui est du fait que malheureusement les femmes, la majorité des femmes n'accouchent pas dans les centres de santé parce que les centres de santé sont pas disponibles, sont trop loin, n'ont pas pas les ou alors il y a une question de coût. Donc tout ceci, l'histoire, la question de la santé maternelle est vraiment liée à un problème plus général.
C'était quoi l'objectif ? Réduire des deux tiers, c'est ça, la mortalité maternelle ? Et on est arrivé à combien ? Vous avez les chiffres à peu près ?
À 45.
On est arrivé à 45%. C'est quoi ? C'est encore 280 000, c'est ça, femmes qui meurent ? C'est quoi le chiffre exact ? Vous l'avez ? Ah non, on les a pas. Vous êtes comme nous, on va les retrouver.
Je pense que c'est 800 femmes par jour, en fait.
J'ai continué à... Donc on va revenir, si vous le voulez bien, justement, sur toute cette question de la mortalité maternelle, parce qu'elle est beaucoup liée au système de santé.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la fin des objectifs du millénaire pour le développement et nous parlons aussi des ODD, ces objectifs de développement durable. Docteur Frédéric Goyer, on était en train de parler de santé maternelle. On me confirme derrière la vide d'abord le chiffre de 800 femmes qui meurent quand même tous les jours de complications de la grossesse ou de l'accouchement. Docteur Frédéric Goyer.
Peut-être juste un mot, parce qu'on là, on parle des objectifs du millénaire pour le développement. Effectivement, il y en avait trois qui étaient directement liés à la santé. Pas oublier qu'il y en avait d'autres qui ont eu un impact sur la santé important. Il y en avait un sur l'éducation, il y en avait un sur les égalités femmes-hommes, extrêmement important, et lutte contre la pauvreté. Donc tout ça a travaillé ensemble. Deuxième élément, là on parle de résultats, on parle de chiffres globaux. En fait, ce qui s'est passé depuis les années 2000, c'est qu'il y a une très grande différenciation entre les pays. Dans des pays, et alors effectivement, quand on parle de la Chine, quand il se passe quelque chose en Chine, l'effet sur les statistiques globales est important. Et l'effondrement de la mortalité infantile en Chine, ben voilà, ça se traduit. Ceci dit, si on commence à regarder pays par pays, là on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays ont très peu progressé, en particulier dans le cas de la mortalité maternelle.
Alors dites-nous lesquels, soyez précis dans ces cas-là.
Très
évidemment.
Clair, on reste au Tchad, au Niger, au Mali, pour en citer trois, dans des chiffres qui sont de plus de 400 décès pour 100 000 naissances, c'est-à-dire des chiffres qui sont
assez épouvantables,
200 fois ceux qu'il y a chez nous. Enfin, on est là, et ça renverra sur les systèmes de santé, mais je crois que, attention aux objectifs du millénaire, dans leurs objectifs globaux, on est très contents de nous, et on a raison, on a fait des belles choses, mais attention à la différenciation avec...
Vous avez raison, et qu'on n'oublie pas certains pays qui ont plus de mal. Et alors pourquoi on ne réussit pas mieux, justement, sur la mortalité maternelle ? C'est plus compliqué parce que ça touche au système de santé ?
Je pense que Patrick Bertrand a commencé à y répondre. Bien évidemment, c'est le meilleur test sur la qualité du système. C'est comment les femmes sont suivies avant l'accouchement, et surtout, on le sait maintenant depuis des années, quelle est la qualité de la prise en charge au moment même de l'accouchement. C'est pas 2 jours avant, c'est pas 3 jours avant, c'est au moment où une femme se présente en travail, ou en début de travail, quelle est la qualité de la prise en charge.
Donc la formation du personnel soignant.
Et l'existence du personnel, surtout. Le fait que le personnel soit là, présent, disponible, motivé, avec éventuellement les outils techniques pour travailler. Mais c'est...
Patrick Bertrand, où vous voulez réagir, Frédéric ?
Oui, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement la mortalité maternelle, mais si on regarde de manière générale, en fait, les questions de santé liées plus spécifiquement aux femmes, ou aux filles, on n'a pas eu la même dynamique politique que sur d'autres maladies. En fait, si on regarde par exemple les courbes de financement, le financement pour la lutte contre le sida a augmenté, pour les vaccins, etc. Par exemple, pas pour le planning familial. Donc, il y a aussi
la mise
un
à disposition
sujet...
de moyens de contraception.
Exactement, exactement. Donc, il y a aussi un sujet spécifique qui touche aux questions de santé de femmes. Et je pense que ça va être un des grands défis qui nous attend. Par exemple aussi, si on regarde le sida, aujourd'hui, la plus grande partie des infections sont chez les adolescentes, donc chez les filles. Donc il faut avoir des stratégies spécifiques pour ces problèmes-là. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte à l'époque.
Et pourquoi, justement ? Parce que plus compliqué, parce que ça touche à la question d'égalité homme-femme, parce que quoi ?
Alors, c'est en effet une question très politique derrière. C'est aussi une question de manière générale que souvent on a peut-être eu l'impression qu'il suffit, par exemple, de lutter contre l'extrême pauvreté de manière générale, de lutter pour l'accès aux soins, mais qu'il faut en fait avoir un regard spécifique pour les questions liées au genre, ce qu'on n'a pas forcément eu il y a 15 ans. Et derrière, du coup, il n'y a pas les financements qui ont suivi. Après, c'est une question aussi de financement.
financement. Ça a été dit. Je veux dire, ça coûte d'investir dans les systèmes de santé, de former du personnel, de le retenir aussi. Et ça, ça, et ça n'a pas forcément été le cas. Mmh. Exactement. Ça, c'est l'autre sujet, c'est qu'il y a la disparité entre les pays, mais au sein des pays aussi, la grande différence entre les zones urbaines et les zones rurales, et donc entre hommes et femmes, ou voilà, filles et garçons, très souvent.
Patrick Bertrand.
Oui, et également dans la santé des enfants, on oublie souvent la problématique des nouveau-nés, qui est une problématique complètement oubliée actuellement. On a près de 2,9 millions d'enfants qui meurent dans les 28 premiers jours de leur vie, et plus d'un million dans les premières 24 heures. Et ça, c'est un lien sur la mortalité, bien entendu, infantile, mais c'est un lien aussi sur la mortalité maternelle. Et là-dedans aussi, les chiffres...
On revient bien le problème de prise en charge.
Exactement. Et également, les chiffres d'un rapport de l'année dernière de Save the Children qui montrait également qu'il y a aussi ce qu'on oublie aussi, c'est les enfants qui meurent durant le travail. Plus d'un million d'enfants meurent à l'intérieur, leur cœur cesse de battre à l'intérieur au moment du travail. Et ça, c'est lié également à la mortalité maternelle.
Travail trop long et pas accès à la césarienne. Dans ces cas-là, c'est ça, en fait.
Exactement.
Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose,
Oui, rappeler qu'effectivement, en 2000, quand on a fixé les objectifs du MINEA pour le développement, il y avait un objectif sur la mortalité maternelle, mais il n'y avait pas d'objectif sur la santé sexuelle et reproductive. Ils sont venus après. C'est une sous-cible qui est arrivée après. Et on le verra avec les objectifs du développement durable. On est monté d'un cran.
Il faudrait que ce soit une cible.
Et voilà. C'est devenu. Ceci dit, il a fallu se battre pour le faire reconnaître comme une cible majeure à l'intérieur de cet objectif.
Patrick Bertrand, quand on parle de la santé maternelle, on a eu beaucoup de tendances ces derniers temps. Je voudrais savoir si on change un peu de registre à dire, mais les femmes sont pas raisonnables, elles font pas suivre leur grossesse et elles vont pas accoucher dans des centres de santé. Est-ce qu'on évolue là-dessus pour arrêter d'accuser les femmes qui simplement n'ont pas de centre de santé à côté de chez elles, à des coûts trop élevés? Est-ce qu'on change ou ce discours continue à circuler?
Ce discours continue à circuler aussi parce que les communautés ne sont pas engagés, puisque ce qu'ont démontré les études, c'est que quand on engage les associations locales, les communautés qui sensibilisent les femmes justement à l'intérêt d'avoir d'aller à l'hôpital au moment de l'accouchement, d'avoir un suivi régulier avant et après, la femme par elle-même souvent n'a pas accès à ce genre d'informations. Donc déjà, ce qui est important au niveau de la santé maternelle, c'est d'avoir des communautés et des associations locales qui soient informées, formées, qui ont suffisamment de ressources pour justement faire passer le message vis-à-vis des femmes. Et après, derrière ces communautés, aussi leur rôle, c'est d'aider justement ces femmes qui ont des problèmes pour avoir accès à un centre de santé pour une raison économique ou pour d'autres raisons, les aider justement à avoir accès à ce centre de santé. Et également, mais on l'a vu dans l'épidémie d'Ebola, le rôle des communautés aussi pour sensibiliser les femmes sur l'aspect important d'une prise en charge médicale par rapport à des croyances culturelles qui pourraient être néfastes.
Frédéric Roder, vous avez probablement envie d'ajouter quelque chose sur cette question-là.
Oui, je pense que là, on prend vraiment la question par le mauvais bout, parce que je pense que on voit très bien en France qu'une femme qui a le choix d'être suivie pendant sa grossesse, elle le fait. Et je pense que la situation, notamment dans les pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne, est une autre. Si les femmes avaient le choix, bien évidemment, elles préféraient voir un médecin et elles connaissent les risques liés à la grossesse. Et donc, il y a aucune excuse. Ce qui manque, c'est vraiment la volonté politique d'avancer et les moyens pour permettre un suivi de toute grossesse en Afrique.
C'est ça, grand problème d'accessibilité financière, hein, pas seulement géographique. Et ça, vous avez l'impression que la mise en place de systèmes de sécurité sociale dans pas mal de pays d'Afrique devrait changer la donne?
Je pense que c'est en effet c'est des développements importants et là par exemple je pense que les nouveaux objectifs de développement durable sont tout à fait intéressants parce qu'ils élargissent un peu la vision qu'on a de la santé et de la protection sociale au sens large. Mais comme je le disais tout à l'heure, les questions liées à la santé des femmes et des filles, ce n'est pas un automatisme qui va se régler juste parce qu'on aura une meilleure protection sociale ou juste parce qu'on aura
une vraie volonté.
Absolument, et une vraie stratégie derrière aussi qui cible ces populations-là.
Et si vous voulez bien, on y revient justement dans 3 minutes, juste après les informations. On parlera plus longuement de ces ODD et de la place de la santé. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Dans la première partie de l'émission, on a fait un bilan des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et nous allons maintenant parler des futurs ODD à l'occasion des objectifs de développement durable, à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se réunit justement en ce moment à New York. Alors ils sont trois autour de cette table pour en parler. Frédérique Roder, qui est présidente de One France. Patrick Bertrand, qui est directeur exécutif d'Action Santé Mondiale. Et le docteur Frédéric Goyer, qui est conseiller du directeur des relations extérieures du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. On va donc parler de ces ODD, de ces objectifs de développement durable. Docteur Frédéric Goyer, moi le sentiment que j'ai en les regardant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la santé. Je me trompe en disant ça? Alors, je m'en verre à moitié vide?
Non, en tous les cas... De manière parfaitement numérique, c'est le cas. Et peut-être un petit retour en arrière. En 2000, quand on choisit les objectifs du millénaire pour le développement, d'abord, qui les choisit, c'est essentiellement un travail qui a été fait par les agences des Nations Unies et les pays développés, dans lequel les pays du Sud ont eu assez peu de rôle. Et on est sorti avec 8 objectifs, qui étaient un outil, Madame Roder l'a dit tout à l'heure, extrêmement puissant pour mobiliser les politiques et tout, parce que c'était simple, il y en a 8, c'est facile. Et on était sur les secteurs sociaux, essentiellement. Et on a avancé, on en a parlé tout à l'heure, avec des chiffres remarquables et de mobilisation financière, on en reparlera peut-être, et de résultats réellement sur le terrain, même s'il reste beaucoup à faire. Ceci dit, pendant ce temps-là, l'épidémiologie mondiale, elle a changé. C'est-à-dire que les pays sont différenciés, il y a des pays intermédiaires, des pays émergents, il y a des pays très pauvres, il y a des pays qui patinent, on en parlait tout à l'heure avec la mortalité maternelle qui est un des meilleurs exemples. Et puis, il y a une progression colossale des maladies chroniques. L'épidémie des cancers du poumon en Chine est une chose absolument terrifiante.
Oui, mais l'augmentation du diabète et des maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne est totalement impressionnante.
Aussi, donc voilà. Donc on est obligé, et c'est ça aussi qui a amené, alors dans le champ de la santé, mais c'est vrai aussi plus globalement, à avoir un processus pour arriver à ces objectifs de développement durable qui a été différent, qui a été beaucoup plus consultatif, à la fois en impliquant beaucoup les pays du Sud, et je peux vous assurer pour avoir suivi ça d'assez près dans les négociations à New York, sur le rôle des pays eux-mêmes, des petits pays insulaires, des pays les moins avancés, du G77, enfin du groupe des 77 pays. Voilà. Et extrêmement présent et demandant, alors globalement sur l'ensemble des sujets du développement, de réaliser que le développement c'est complexe. Bien sûr qu'il y a les sujets sociaux qui étaient en premier en 2000, mais qu'il y a tous les autres sujets. Les suites de la conférence de Rio et de Rio sur le développement durable disant, le développement, il est sur trois pieds. Hein. Il y a le social, bien sûr. C'était le cas. Il y a l'environnemental et il y a l'économique. Et donc, les objectifs du développement durable, ils doivent être sur ces trois. Donc, vous additionnez beaucoup d'avis, l'élargissement du champ, vous arrivez à 17 objectifs de développement durable, dont un sur la santé. Donc, on est passé de 1. Mais sur 17 à 3 sur 8, on peut, si on le regarde comme ça, dire que ça va être un peu plus compliqué pour nous.
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne pouvait plus faire en ciblant simplement certaines pathologies, parce que ce n'est plus réaliste. Donc 17 ODD, objectifs de développement durable, 1 sur la santé, qui dit quoi? Il dit quoi sur la santé?
Alors, sur la santé, en fait, parce que, alors aussi, il faut peut-être le dire, les objectifs du développement durable, ils ne s'adressent pas uniquement aux pays en développement. Ils s'adressent à l'ensemble des pays. Et puis après, dans chaque des groupes de pays, chaque pays va adapter les cibles et les objectifs. Donc c'est aussi dans toute la discussion a été ça va être quoi un objectif qui pourrait marcher pour tout le monde? Et l'objectif qui pourrait marcher pour tout le monde, c'est une vie en bonne santé pour tous et promouvoir la santé pour tous à tous les âges. Voilà. Donc on peut pas faire plus large. Et puis à l'intérieur de cet objectif, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je crois que neuf cibles, dont trois sont la reprise des objectifs du millénaire pour le développement, puisqu'on retrouve la santé maternelle, on retrouve la santé infantile, on retrouve la lutte contre les épidémies auxquelles on rajoute les hépatites et les maladies liées à l'eau aussi, je crois. On fait une cible spécifique sur la santé sexuelle et reproductive. On parle des maladies chroniques, on en parlait à l'instant. On parle des accidents de la route, on parle des toxiques. Et, un peu chapeau, un peu différent, l'objectif de mettre en place dans l'ensemble des pays l'accès universel à la santé, c'est-à-dire la possibilité pour tous d'avoir accès à des soins de santé sans mettre en péril sa santé économique.
Frédéric Roder, vous l'avez dit tout à l'heure, les OMD, ça a quand même été les objectifs du millénaire pour le développement, un très bon moteur pour mobiliser financièrement les bailleurs de fonds. Est-ce que vous avez l'impression que les ODD vont pouvoir fonctionner de la même manière? Je parle vraiment que des questions de santé.
Oui, je pense, parce que c'est quand même dans le domaine de santé qu'on a prouvé quels progrès sont possibles, et donc notamment aussi dans les pays les plus pauvres. Et ça va bien évidemment nous aider aussi de mobiliser autour des objectifs de développement durable, et notamment celui sur la santé. Et en plus, ce qui est quand même aussi, où j'espère que ça va être très mobilisateur, notamment pour nos dirigeants qui ont les budgets nécessaires, c'est que en effet, on retrouve les mêmes sujets, donc comme la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Mais cette fois-ci, on ne vise pas seulement une réduction, on vise vraiment la fin de ces pandémies. Et ça, c'est quand même, ce sont des objectifs vraiment historiques. Et j'espère qu'en effet, ils vont avoir cet effet mobilisateur dans les pays du Nord et du Sud, et bien évidemment du côté des États, mais aussi du secteur privé, des ONG. C'est vraiment aujourd'hui qu'on peut aller plus loin. Et il n'y a vraiment aucune excuse de ne pas faire le nécessaire.
Tout à fait. Patrick Bertrand, je veux une réaction par rapport à ça avant qu'on arrive à parler spécifiquement de l'aide de la France.
Sur les ODD aussi, ce qui est important de dire, c'est que ils ont permis aussi de mettre le focus sur la recherche et le développement. C'est quelque chose qui est important, qui avait été un peu oublié au niveau des OMD, et donc il y a un besoin, et on le voit maintenant avec la problématique des génériques, la problématique, on a vu que les 15 dernières années, on a réussi à avoir des effets importants contre les maladies infectieuses grâce justement à un investissement important sur la recherche et le développement. Maintenant, le problème, c'est comment rendre ces produits accessibles à tous, à un prix accessible, et également développer des produits spécifiques pour les pays les plus pauvres.
Patrick Bertrand, on s'est vu plusieurs fois quand on a parlé des préparations des ODD. Vous étiez quand même relativement inquiet sur la place de la santé dans ces ODD. Je vous sens moins inquiet aujourd'hui.
Moins inquiet sur la place de la santé, puisque en fait, c'est comme l'a dit Frédéric Goyet, donc le processus déjà était quand même assez innovant de mise en place de ces ODD qui était très, très, très universel. Donc, qui a permis justement d'avoir une discussion générale sur tous les problèmes de santé, dont les problèmes liés, par exemple, à la santé mentale, qui était complètement aussi oublié auparavant. Mais maintenant, la problématique qui se passe, c'est pas tellement la place de la santé dans ces 17 ODD, puisque au-delà de l'ODD 2, il y a l'ODD sur la santé, il y a également un objectif par rapport à la nutrition, dont la santé, bien entendu, est une partie importante. Il y a aussi l'ODD sur la problématique sur l'eau ou également la santé. Donc
on peut le retrouver, la santé dans plusieurs.
Sur les objectifs, je trouve que la santé est assez bien représentée. Maintenant, la problématique, mais ça on va en parler sûrement, c'est la problématique sur comment on va mesurer. Quelles sont les cibles, puisqu'on est dans un système où on a 17 ODD, mais 169 cibles. Et ces cibles, on a vraiment des données très très parcellaires. On a un problème de comptabilité, de transparence, de redevabilité, comme nous disons dans notre secteur, sur comment avancer, comment être sûr qu'on est sur la bonne voie, et qu'on est sûr également, ce que disait Frédéric, que les financements sont dirigés vers les problèmes de santé qui sont les plus importants.
Vous voulez réagir, Frédéric Roder?
Oui, je pense que c'est utile de revenir un peu à l'idée des objectifs de développement durable. Pourquoi maintenant on passe à 17? D'une part parce que le processus était plus inclusif, mais surtout parce qu'on a reconnu qu'on ne peut plus œuvrer pour le développement humain et social sans lutter pour la préservation de la planète.
C'est ça, on ne peut pas saucissonner les choses.
Exactement, exactement. Il faut une approche intégrée. Et c'est exactement ce que les ODD font. Donc on retrouve en effet la santé dans beaucoup d'objectifs. Et c'est quand même aussi très important pour la santé dans le monde, de par exemple lutter contre le changement climatique qui, on le sait, aura par exemple un impact très certainement sur la prévalence du paludisme par exemple. Donc je pense qu'il faut aussi garder ça en tête, et de ce point de vue-là, les ODD sont une très très bonne base pour améliorer encore plus la santé globale et vraiment partout dans le monde.
Et Patrick Bertrand, dans tout ça, que fait la France? Est-ce que la santé mondiale reste une priorité pour la France aujourd'hui?
Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas, disons, il y a beaucoup de discours, beaucoup de discours officiels de nos dirigeants, mais dans les faits, on voit une baisse de l'aide publique au développement en général en France ces 4 dernières années, et la partie de l'aide publique au développement dans la santé est bien plus impacté que les autres secteurs. Donc, pour nous, on a créé un collectif d'association qui s'appelle Collectif 2015 Santé, qui justement demande au gouvernement de passer des discours aux actes. juste parce qu'on a malheureusement...
Il y a eu des promesses non tenues,
des
en fait,
des promesses
c'est
ça. Non tenues, des promesses qui sont actuellement en point d'interrogation sur, par exemple, le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, également le financement de l'Alliance contre les vaccins, pour les vaccins de l'Alliance Gavi, que ce soit des financements également de United, qui a été créé par la France et qui a vu son financement...
Tout ça est en baisse.
Tout ça, c'est...
L'aide de la France est en baisse.
L'aide de la France est en baisse. Il y a des questions sur le financement du Fonds mondial. Il y a des questions, il y a des financements qui n'ont pas été totalement versés pour l'Alliance Gavi sur la période précédente. United a eu son financement coupé, ça c'est clair, l'année dernière. Donc on a des mauvais signes en termes financiers sur l'aide publique au développement dans la santé. Et on espère justement, compte tenu des discours officiels qui sont plutôt rassurants sur la priorité que donne la France à la santé, que les actes passent, l'argent arrivera pour financer ce genre
de façon concrète. Frédéric Roder, vous dites à juste titre, ce sont des économies à court terme, mais plus de dépenses à long terme.
Oui, je pense que ça c'est très clair. On l'a vu malheureusement avec Ebola, qui était un rappel de ça, que investir dans la santé est bien évidemment un investissement à long terme.
Et on peut dire un investissement rentable.
Oui. Je pense qu'il y a énormément de raisons morales et humanitaires de donner une priorité à la santé, mais bien évidemment aussi économique. Ça a été quelque chose qui a été porté depuis longtemps par la France, comme Patrick vient de le dire, même historiquement. Il ne faut pas oublier le rôle de la France historiquement dans les questions de santé, avec l'Institut Pasteur, la découverte du VIH, et aussi la mise en place de financements innovants comme la taxe sur les billets d'avion. C'est très important parce que voilà, les mots c'est bien, mais en fin de compte, ce qu'il faut, c'est des investissements. Et nous, on espère vraiment que la France va garder cette place de leadership. Et on espère en fait que le président, il sera à New York, il va faire un discours sur les ODD, qui va bien évidemment aussi parler des moyens qu'il va mettre en place pour, par exemple, parvenir à atteindre les ODD 3, donc ceux sur la santé.
Frédéric Goyer, justement sur la question du financement du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, est-ce que vous êtes inquiet sur les 15 millions, par exemple, de personnes qui sont mises sous trithérapie, sous antirétroviraux dans le monde? Il y en a 8 qui le sont grâce au Fonds mondial. Je ne me trompe pas quand je donne ces chiffres.
Oui. Le Fonds mondial vient de sortir son bilan de ses résultats là depuis l'origine, et le chiffre qu'on avance, c'est il y a 17 millions de vies sauvées grâce au Fonds mondial.
Quand on accumule
PALU, tuberculose et VIH, 8 millions de personnes sont sous traitement antirétroviral, en partie grâce à l'appui du Fonds mondial. Le reste par les pays eux-mêmes, mais je vais y revenir, et puis aussi beaucoup par l'aide bilatérale américaine, qui est l'autre très très gros financeur par le programme PEPFAR américain. C'est pareil pour le paludisme d'ailleurs, avec un gros programme américain. Mais je voulais revenir, alors le financement du Fonds mondial, tous les 3 ans, on organise une reconstitution de nos ressources, qui, je vous le rappelle, sont à 90% des ressources publiques et à plus de 80% par les pays les plus riches, par les pays du G7. Et c'est extrêmement important. Le cycle actuel se termine. On rentre dans la préparation de la prochaine conférence qui se tiendra au mois de mai ou juin l'année prochaine pour les années 2019, voilà, ouais. Pour les 3 ans. On travaille énormément en particulier sur ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire les liens avec les autres objectifs. Je crois que sortait dans Lancet ce matin ou hier un article qui montre que une année de plus d'une femme, une jeune fille à l'école au Botswana, fait chuter 10% la probabilité de se contaminer de la contamination par le VIH. Donc, on voit que l'article dit à quel moment on va demander à l'argent de la lutte contre le VIH d'investir dans les écoles. Question tout à fait pertinente, parce que l'enseignement secondaire est compliqué. Bon, voilà. Donc,
vous travaillez sur cette inégalité de genre,
et
d'ailleurs.
On travaille énormément, et en particulier notre directeur général, Marek Daibel, et c'est son motto permanent sur la santé, et Mme Rodra l'a dit tout à l'heure, la santé des jeunes filles. Aujourd'hui, Le décalage de contamination entre les jeunes filles et les jeunes gens, en particulier en Afrique australe, est terrifiant. C'est-à-dire qu'on est dans des rapports de 1 à 10. Enfin, voilà. Les jeunes filles se contaminent aujourd'hui. On ne sait pas comment accéder aux jeunes filles. On ne sait pas que les services qu'on leur propose ne sont pas les bons. Elles ne viennent pas. Les consultations maternelles et infantiles sont faites pour des femmes qui veulent avoir des enfants. Enfin, on connaît, une jeune fille n'ira jamais dans un centre de PMI en Afrique. C'est pas vrai. Elle n'ira pas.
On nie le fait qu'elles aient une sexualité, alors que de fait, elles l'ont.
Elles l'ont de manière, hélas, très souvent contrainte physiquement, hélas, un centre de cas, contrainte économiquement dans d'autres cas. Donc, voilà. Comment, ça, c'est encore un lien entre des objectifs. Et pour le Fonds mondial, dans la stratégie qu'on met en œuvre, on est effectivement sur ces aspects-là, le lien avec les autres, et bien évidemment créer les systèmes de santé, parce qu'on a obtenu des résultats merveilleux en amenant énormément de nouveaux médicaments, en faisant beaucoup de choses. Si les systèmes ne se renforcent pas, si on n'a pas des agents de santé formés, compétents, au plus près des populations, des communautés impliquées, comme le disait Patrick tout à l'heure, on n'y arrivera pas.
On arrive vraiment à la fin de cette émission, parce que j'aimerais bien qu'on parle de la situation de l'hôpital Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou, au Burkina. Mais juste, Patrick Bertrand, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question du coût des médicaments dans tout ça. Et je pense que c'est important de le dire. Vous avez une forte inquiétude là-dessus, sur certains médicaments, alors qu'ils existent depuis longtemps, dont d'un seul coup, le coût augmente.
Oui, on a vu là dernièrement, justement dans l'actualité, avec l'augmentation de 5000% d'un médicament aux États-Unis pour lutter contre la toxoplasmose, qui est une maladie infectieuse importante chez les personnes infectées par le VIH et contre le paludisme. Et on voit arriver, disons, un problème où des brevets sont rachetés par des sociétés pour faire de l'argent, entre guillemets. Et là, il faut être très vigilant, justement, pour éviter que les produits, justement, pour lutter contre les maladies de la pauvreté, puissent avoir des exceptions de brevets et que ces excès soient.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus ? Vous essayez de faire pression sur l'industrie pharmaceutique ? Vous faites comment, là ?
Il y a une pression sur l'industrie pharmaceutique, il y a une pression politique, on l'a vu dernièrement aux États-Unis, la pression, tout est lié, et ça revient à la discussion qu'on a eue au début de cette émission, tout est lié à une volonté politique. Tant qu'on n'aura pas une volonté politique importante des gouvernements du Nord pour mettre en place des législations qui permettent justement à l'industrie pharmaceutique d'être plus contrôlée, les choses resteront malheureusement comme elles sont maintenant.
Un dernier mot de conclusion, Frédéric Roder.
Oui, on a beaucoup parlé de volonté politique, du rôle des États, qui en effet est très important, mais j'aimerais aussi revenir sur l'importance de la mobilisation citoyenne.
Elle a été forte, cette mobilisation, hier à New York, à Sydney ?
Alors, il y a eu une mobilisation à travers le monde hier soir, donc à Sydney, à New York, aussi à Paris, devant le Sacré-Cœur, à Bamako, partout dans le monde, pour encourager les dirigeants non seulement d'adopter les objectifs de développement durable, mais aussi de les mettre en œuvre, de mettre les moyens nécessaires. Et bien sûr, cette mobilisation va continuer. Donc, par exemple, en France, il y a toute cette question du budget d'aide au développement qui a chuté de 15% depuis 4 ans. Il y a, bien évidemment, l'année prochaine, la reconstitution du Fonds mondial. Ce sont tous des occasions pour les États de commencer à mettre en œuvre ces objectifs qu'ils vont adopter là dans quelques heures à New York. Et bien évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est que derrière, il y a la mobilisation citoyenne qui leur demande des comptes, qui mettent la pression, qui leur mettent aussi la pression, par exemple, pour qu'ils régulent mieux les pharmaceutiques, etc. Et voilà, un appel à tous les auditeurs
de se mobiliser. Très bien, merci beaucoup tous les trois d'être venus. On suivra l'évolution de ces ODD. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs quand vous voulez.
Priorité santé sur RFI.
Alors, suite au coup d'État qui était survenu au Burkina Faso le 17 septembre dernier, face à l'afflux de blessés, le fonctionnement de l'hôpital Yelgado Ouédraogo, qui est l'hôpital principal de la capitale burkinabé, a été fortement affecté. Le calme est revenu. On a au téléphone le docteur Moumouni Kinda, qui est coordinateur d'urgence pour l'ONG Alima, Alliance pour l'Action Médicale Internationale. Docteur Moumouni Kinda, bonjour.
Bonjour madame.
Ah oui, vous êtes là. Formidable, les lignes téléphoniques fonctionnent. Quels sont les problèmes auxquels l'hôpital Yelgado Ouédraogo a été confronté et puis quelle est la situation maintenant ?
Alors, il faut dire que le gros problème au départ, c'était la gestion de l'afflux de blessés. Parce que quand même, l'hôpital a reçu une soixantaine de blessés en un temps record. Et dans une situation où les ressources humaines étaient un nombre très réduit, voire absent dans un certain nombre de services. Donc le premier problème, c'était vraiment les ressources humaines. Et après les ressources humaines, il y a eu un problème au niveau logistique et au niveau de la chaîne d'approvisionnement, notamment au niveau de certaines molécules et de certains équipements pour bien prendre en charge tous ces blessés-là et éventuellement tous les autres malades qui étaient hospitalisés dans les autres services.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu faire justement avec Alima?
Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons renforcé, nous avons appuyé l'hôpital Yalrepo en faisant un renfort en ressources humaines qualifiées, que ce soit des chirurgiens, des médecins, des anesthésistes, des infirmiers, et également le personnel de soutien pour que le niveau d'hygiène soit quand même à un niveau acceptable. Nous avons également fait un renfort, un appui au niveau logistique pour que les ambulances puissent fonctionner, pour qu'il puisse y avoir de l'oxygène et que un certain nombre de soins qui étaient aux arrêts puissent être une réalité. Et je parle notamment des césariennes qui étaient aux arrêts depuis le coup d'État.
Juste une dernière question. Et aujourd'hui, le calme est revenu dans le pays. Est-ce que du coup, ça va mieux aussi à l'hôpital Yelgado et Draogo?
Oui, on peut dire que ça va un tout petit peu mieux parce que du fait de l'insécurité qui empêchait certains agents de venir initialement, du fait du retour donc à une situation beaucoup plus calme, on a des agents qui commencent tout petit, tout timidement à reprendre le service, mais c'est pas encore, nous ne sommes pas encore à une situation de normalité et nous espérons en tout cas que dans les prochains jours, les agents vont reprendre du service, le système d'approvisionnement au niveau de l'hôpital, il va...
C'est un appel que vous faites, j'imagine. Revenez dans les services et que le réapprovisionnement se fasse correctement. Merci beaucoup, docteur Moumouni Kinda. Je rappelle que vous êtes coordinateur d'urgence pour l'ONG Alima, Alliance pour l'Action Médicale Internationale.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Claire.
On va vous retrouver maintenant tous les vendredis pour nous parler sport et santé. Jean-Marc Sen, vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. D'ailleurs, je crois que vous étiez en Afrique du Sud pour ça, pour des compétitions, si je ne me trompe. Et alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'une blessure qui est extrêmement fréquente chez les sportifs, mais aussi chez monsieur et madame tout le monde. Il s'agit de l'entorse de la cheville. Mais finalement, c'est quoi une entorse de la cheville, docteur Sen?
Une entorse de cheville, c'est la lésion des ligaments. Alors, il y en a trois qui se situent à la face externe de la cheville. Un ligament, c'est un tissu qui relie deux os entre eux. Lorsqu'il existe une torsion de cheville, ils vont plus ou moins céder sous la tension et se déchirer. Il faut aussi savoir que ces ligaments sont pleins de terminaisons nerveuses, d'où la douleur que l'on ressent, et pleins de vaisseaux, d'où le gonflement qui apparaît rapidement après le traumatisme et qui correspond à un hématome sous la peau.
Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'est tordu la cheville?
Il faut appliquer le protocole grec. Alors, rien à voir avec
le
pays.
Pas de la Grèce, c'est ça.
Il s'agit en fait de l'acronyme des actions de soins à réaliser après un traumatisme de la cheville. G, pour glacer, avec une petite vessie de glace ou quelques glaçons dans un sac plastique, en protégeant bien la peau avec un linge fin pour éviter de l'abîmer. R, pour reposer, il faut arrêter de marcher ou de courir pour éviter d'aggraver la blessure et d'augmenter le saignement. E, pour élever, dès que possible, il faut surélever la jambe pour empêcher le sang de stagner dans la cheville. Et enfin C, pour compresser, à l'aide d'une bande cohésive, serrer légèrement autour de la cheville pour limiter le gonflement.
Et docteur Jean-Marc Sen, après, est-ce qu'il faut aller faire une radio pour voir ce qu'il en est?
Non, pour savoir si l'on doit faire une radiographie après un traumatisme de cheville, il faut d'abord appliquer les règles d'Ottawa cette fois-ci. Alors c'est la ville du Canada où s'est déroulée une conférence de consensus sur les critères qui indiquent ou pas la réalisation d'une radiographie. En dessous de 16 ans ou au-dessus de 55 ans, on fera systématiquement une radiographie car à ces âges, la population a plus de risques de faire une fracture ou une lésion du cartilage de croissance. Si on ne peut pas faire 4 pas, même en boitant un peu, il faudra aussi faire une radiographie. Enfin, le médecin palpera 4 zones précises au niveau de la cheville, et si l'une d'elles est douloureuse, il prescrira une radiographie.
Et donc c'est le médecin qui dit s'il faut faire une radio ou pas. Et après ça, on traite comment une entorse de la cheville ?
Eh bien, le traitement s'adaptera à l'importance de l'entorse qui s'évalue en fonction du nombre et du type d'atteinte des ligaments. Le stade 1, ou entorse légère, correspond à l'étirement d'un ligament. Le stade 2, ou entorse moyenne, correspond à la déchirure de quelques fibres ligamentaires. Enfin, le stade 3, ou entorse grave, correspond à la rupture complète d'un ou plusieurs ligaments externes de la cheville. Retenons qu'une entorse de la cheville se traite dès la première minute, comme nous l'avons vu par le protocole grec, car éviter le saignement est essentiel pour accélérer la guérison. Puis il faudra maintenir la cheville avec des moyens plus ou moins contraignants, là aussi selon l'importance de l'entorse. Cela ira de la chevillère élastique, ou strapping, fait avec des bandes adhésives, à la botte rigide ou plâtrée en passant par la telle. Pour finir, il ne faudra pas hésiter à faire de la kinésithérapie, notamment pour renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville et prévenir la récidive.
Alors, docteur Jean-Marc Sen, pour bien suivre tous vos conseils, on retrouvera tous les vendredis votre chronique sur le blog de l'émission. Les coordonnées, vous allez sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé et vous trouverez toutes les coordonnées du blog et vous pourrez relire dans le détail tout ce que vient de nous dire le docteur Jean-Marc Sen. La semaine prochaine, vous nous parlez de quoi ?
Eh bien, on parlera du sport quand il fait chaud. Faire du sport quand il fait chaud. Quels sont les risques, quelles précautions faut-il prendre, comment l'organisme s'adapte. Nous allons vous donner plein de conseils pour que même en pleine chaleur, le sport reste un plaisir.
Et un plaisir est important pour la santé, c'est une évidence. Merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen. Lundi, on va parler de la santé de nos dents. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit sur les réseaux sociaux comme d'habitude ou un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetoussa Maquet, Ophélie Lassène et Laurence Snow. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.